savez, ce qui est là ici un trou réel, ça va se finir avec le réel également. Il y a un lien entre ce qui commence et ce qui finit. C'est pour ça que j'ai proposé de plier ce schéma de la manière suivante, en gardant PS ici fixe, hein, de plier l'inconscient par là, de plier ici, par ici le, la perception, P, ici l'inconscient, ici vous pliez, vous avez le préconscient, et là vous avez la conscience. Bon. Si vous pliez le schéma comme ça, vous allez vous approcher des deux schémas de Lacan qui s'appellent le schéma R et le schéma L. Moi, je tiens que ces deux étapes de cette structure, moi, j'appelle ça le schéma F. Pour ne pas martyriser le schéma R de Lacan, ça, c'est le schéma R. Et ça, c'est le schéma F. Non, ça, c'est le schéma L. Bon, alors, regardez. Je vais mettre du bleu, c'est pour ça qu'il paraît un peu vide, mon schéma R. C'est qu'il est rayé comme ça par deux traits. Et ici, il y a quelque chose qui s'appelle une zone, qui s'appelle la réalité psychique. Et Lacan nous dit ça, c'est. En 56, il nous dit ça, c'est une bande de Mobius. Ici, il y a le symbolique, ici, il y a l'imaginaire. Alors qu'il nous dit que la relation imaginaire, elle est là dans le schéma L. C'est une ligne seulement. Alors vous remarquerez que les lettres qui sont là, ici, il y a A, ici, il y a grand A. Ici, il y a petit a, ici, il y a petit a prime. Ici, ça s'appelle « moi », du côté du petit a. Ici, ça s'appelle « autre ». Ici aussi, ça s'appelle « autre ». Et là, vous avez le S freudien qui complète. Vous voyez, c'est le sujet S complété par le S freudien, dit Lacan, dans son schéma L. Ici, vous avez le S barré. Moi, je pense que le S freudien, comme c'est le silence des pulsions, c'est le lieu du silence, justement, c'est un endroit hyper dogmatique et c'est ça qui divise le sujet. Bon. Et là, vous avez grand I, l'idéal du moi, et ici, vous avez le moi, petit m. Vous voyez, le moi, il n'est pas au même endroit. Ben, c'est fatal parce que cet état-là, c'est quand les deux lignes qui cernent la réalité psychique se rapprochent l'une de l'autre et se réduisent à se fermer, à ce moment-là, vous avez le moi qui devient identifié au I. Ici, vous avez grand M et petit I. Hein, dans ce schéma R, voilà, vous avez le schéma R et le schéma L. Les deux, moi j'ai montré qu'on pouvait les faire marcher sur la bande de Mobius, puisque Lacan nous dit ça, ça se met sur une bande de Mobius en 66. J'ai fait ça dans un livre qui s'appelle Étoffe. Tout le livre, il est fait pour que dans la conclusion, on puisse s'apercevoir de ça. Bon. Ben, c'est avec ça qu'on va faire la différence entre le rêve et le délire. Je vais vous expliquer comment. On va voir qu'est-ce que c'est que la psychose, justement, puisque c'est là que conduit Lacan. Avec le nœud trèfle. Bon. Mais avançons plus lentement. Vous avez donc Freud qui dit deux choses. Il dit, moi j'étudie les rêves, il étudie les rêves et les délires de Arnold dans la Grande Ivade d'Hansen, et il se pose la question, est-ce qu'on peut faire ça avec une œuvre littéraire? Il a cette très belle phrase qui m'évoque la série de Dieu, qui commence par la DI, c'est qu'il dit tout de suite dans la deuxième partie, je vous ai dit ça la dernière fois, ça a été traduit comme ça en français, il dit, hein, il s'interroge là-dessus, nos lecteurs ont dû être étonnés de nous voir traiter Norbert, Anod et Zoé Bertrand toutes les expressions de leur psychisme, de leurs faits et gestes, comme des personnages réels et non pas comme des créatures poétiques. Tout comme si l'esprit du romancier était un milieu absolument perméable aux rayons du réel, et non point réfringent ou troublant. Cette attitude doit paraître d'autant plus étrange que le romancier, en dénommant son œuvre fantaisie, a explicitement renoncé à toute figuration véridique. D'accord, peut-être pas véridique au sens de la réalité, vous savez, puisque bon, parce que Freud, il avait quand même beaucoup de difficultés avec ces questions. Hein, le symptôme Freud, qui accompagne le symptôme Joyce, c'est la réalité psychique. Cette réalité psychique qui se ferme dans ces schémas, pour Lacan, c'est une précaution. Freud, il a parlé de réalité psychique parce qu'il est prudent, vous voyez, Freud. Hein? Il avait besoin, comme dit Lacan, il a besoin de ce quatrième terme de la réalité psychique. Mais moi, dit Lacan, moi j'essaye de le faire tomber. Il dit ça dans RSI. J'essaye de le faire de m'en débarrasser de ce quatrième terme, imaginaire, réel, symbolique et réalité psychique. La réalité psychique, c'est le symptôme de Freud. Il l'appelle aussi Œdipe, réalité psychique, Œdipe, amour pour le père, il l'appelle aussi. Alors on peut s'orienter sur ces schémas, parce que si ça se plie, vous voyez, le pliage et tout ce qui se passe là, au milieu, dans cette zone que je vais appeler, dans mon schéma R, je vais ajouter la couleur bleue de la réalité psychique, voilà, l'endroit où la perception et la conscience pourraient se rencontrer. Qu'est-ce que c'est que cet appareil, cette fermeture de l'appareil psychique, cette fermeture et cette ouverture? C'est le fait que lisez n'importe quel traité d'anatomie qui vous parle de la fonction de l'appareil, par exemple, de la vision dans le corps. Qu'est-ce qu'on vous raconte? On vous raconte qu'il y a un œil, là vous avez un œil, il y a la lumière qui vient dans l'œil, elle fait une image dans la rétine. Au fond de la rétine, il y a le nerf optique qui part, et l'image, elle va se balader dans le nerf optique, c'est comme la télévision, hein, puis ça arrive dans un écran qui se trouve dans le cerveau. D'accord? Qui c'est qui regarde? Dans le cerveau, vous avez, c'est comme une salle de cinéma, votre cerveau, vous avez, bien sûr, évidemment, il y a tout un public là qui est assis dans des fauteuils et puis qui regarde le film. Bon, alors eux, ça arrive dans leur œil, et puis ça va aller jusque dans leur rétine, et puis ça va aller par un nerf optique jusque dans le cerveau, et puis c'est comme ça que. Qu'est-ce que. Vous voyez bien que l'anatomie, ça ne vous rend pas compte du tout de quoi? Du fait que. Je ne sais pas, moi, ce qu'il en est de. Je ne fais pas d'anatomie. Je laisse ça aux biologistes, aux anatomistes, aux médecins et aux ceux qui font de l'anatomie. Moi, je ne m'en occupe pas. Mais moi, je suis simplement logicien. Donc, je dis, voilà. Vous voyez bien que si je peux vous parler, c'est parce qu'il s'est passé avec ce trauma quelque chose. Ici, tout de suite, il y a le trait lunaire qui se forme, il y a du découpage séquentiel, et ici, tout de suite, grâce à l'ADI, il y a quelque chose qui s'appelle le narcissisme. Narcissisme. Et qu'est-ce que c'est que le narcissisme? C'est le deuxième élément. Premier élément, c'est découpage en éléments discrets. Deuxième élément important, fondamental du langage, c'est il y a un effet de dédoublement. Il y a quelque chose qui se double. Il y a quelque chose qui est. Le narcissisme, c'est une image. Bon, Lacan, il a pris le miroir pour nous aider, pour faire un petit modèle théorique, mais le sujet, il est intrinsèque à son corps et il se considère d'une manière extrinsèque. Il se voit comme un autre. Vous voyez, c'est pour ça que ça traîne dans les schémas de Lacan. L'autre, là. Il se voit comme un autre. C'est-à-dire qu'il y a une notion qu'aucun les analystes pourraient l'avoir, mais aucun linguiste n'a pour l'instant encore, c'est cette notion intrinsèque-extrinsèque. Pourtant, ça n'empêche pas Jacobson de le dire très bien. Il dit, qu'est-ce que c'est qu'une langue? Qu'est-ce que c'est que le langage? Il y a un truc imparable. Aucun linguiste, tout le monde fait du patinage artistique avec ça, parce qu'on confond parole, langue, langage. En plus, il y a des gens qui mettent en plus la pensée, l'esprit. Pour moi, l'esprit, la pensée, je peux paraître nominaliste, mais ou réaliste, je ne sais pas, ça dépend des époques, puisque c'est aussi un lieu d'involution constant dans le discours, nominalisme, réalisme. Mais n'empêche que l'esprit, la pensée, c'est de la langue. Il y a une chose qui est certaine, c'est qu'il y a de la langue. Et il y a du langage qui serait le fait qu'il y ait une structure, et Jacobson, il nous dit, il y a du langage quand il y a du métalangage. Dès qu'on peut interrompre quelqu'un pour lui poser une question, et qui répond, vous êtes sûr que vous n'avez pas affaire justement à une abeille. Là, vous avez bien comparé la communication dans chez les abeilles, décrite par Benveniste, qui a lui lu des ouvrages d'éthologistes. L'éthologie, c'est très intéressant. Il y a des gens qui ont observé les abeilles énormément. Ils ont bien vu que jamais, si une abeille est retardataire, elle ne demande jamais, et aucune abeille ne lui répondrait, qu'est-ce que l'abeille qui a délivré un message pour indiquer une direction et une distance à parcourir pour trouver des fleurs? Jamais personne ne va s'occuper de ce que nous faisons. Nous pouvons nous conduire comme des animaux, puisque, vous voyez, la parole, elle commence avant. On peut très bien retourner à l'état animal. Quand quelqu'un vient à un cours et puis n'a pas assisté au début du cours, et puis quelqu'un vient en retard et il demande à quelqu'un d'autre, alors qu'est-ce qu'il a dit l'orateur, là, le prof? Ah ben, l'autre dit, je sais pas. Ça, c'est très fréquent. Vous voyez, c'est même, d'ailleurs, c'est même un truc, Donc on peut se conduire comme des animaux, c'est-à-dire qu'on comprend au moment où on entend l'exposé, puis après, silence. Bon. Mon discours, d'ailleurs, il a particulièrement cette propriété. Moi, il y a un jeune gars charmant de Lille qui me disait ça un jour, comme ça, il me disait, c'est formidable, c'est incroyable, quand même. Quand je vous écoute parler, je suis d'accord, oui, parce que vous voyez, les esprits forts, je suis d'accord. Il faut être d'accord, c'est vrai, pour comprendre. Comprendre aussi, c'est qu'est-ce que c'est que cette histoire. Puis alors, en plus, il me disait, mais il est vraiment gentil, parce qu'il m'aime beaucoup. Il m'a même envoyé un fils de gendarme de Lille à Paris pour faire une analyse, c'est charmant. Parce que c'était important, la gendarmerie française. Bon, mais alors le point, c'est tout, c'est qu'il me dit, mais écoutez, je suis d'accord avec tout ce que vous dites, et puis quand ensuite je veux le raconter à quelqu'un, ben, je suis incapable de le dire. Vous voyez ? Ça, c'est une propriété du discours. D'où vient cet effacement ? D'où vient cette impossibilité de répéter ? Ben, c'est un fait qu'il y a de la trivialisation. C'est que justement, vous voyez, c'est ce que signale cet appareil qui se ferme, la zone de la réalité psychique qui se ferme. Le fait que ça se ferme, c'est ce qui trivialise. Voilà, vous passez de l'extrinsèque à l'intrinsèque, du métalangage, du commentaire, au langage objet. Vous voyez, et au moment, pour pouvoir... Vous voyez, quand vous rêvez, ça s'ouvre. Vous êtes dans la structure du langage et vous êtes dans une logique qui est différente de la logique canonique classique d'Aristote et de la science et du discours de la science. Et c'est pour ça que vous rêvez des choses que vous ne comprenez plus quand vous vous réveillez. Et ça relève d'une logique. Et en plus, plus vous allez rentrer dans le discours commun et les règles de la syntaxe et de l'écriture commune de la logique, plus ça va s'effacer. Et vous allez plus retrouver du tout le fil de vos pensées. Vous pourrez les retrouver à un autre moment si vous recommencez à rêver. Bon. Ça, c'est un exercice extrêmement important à mettre au point pour lire Freud et lire Lacan dans leur genre, dit Lacan, dans leur genre, pour les commenter dans leur genre. Si on essaye de les ramener à la psychologie générale ou à la philosophie, eh ben, on ne comprend rien à Freud. Freud, c'est quelqu'un qui produit quelque chose qui n'est pas du tout un délire, qui n'est pas un rêve non plus, qui est un texte qui relève d'une logique et d'un style. Alors, évidemment, chez Freud, ça passe par le style, le choix des mots, la façon d'utiliser la langue allemande. Mais c'est aussi des problèmes de logique. Vous n'avez qu'à suivre Freud, il n'a pas hésité à aller jusqu'à poser les problèmes de logique. Il l'a posé, regardez sur la dénégation, regardez son texte sur la dénégation, regardez le sens opposé des mots primitifs, hein, qui est tant déplu à Benveniste. Et il y a Milner a fait un joli article dans la linguistique fantastique pour rétablir le fait que c'était Benveniste qui ne voulait pas entendre quelque chose de Freud, alors que Freud n'était pas identique à Abel. Abel est un mauvais linguiste, mais Freud, il dit la même chose que Benveniste. Il dit il y a de la différence. Bon. Ça, Milner, là, c'est la dernière bonne chose qu'il ait faite avant de faire l'œuvre claire, avant de virer sa cutie. Est-ce qu'il était déçu de pas qu'il n'y ait plus de linguistique ? Il a raison, c'est pathétique. Mais qu'est-ce que vous voulez ? Il ne veut pas admettre qu'il faut accepter, c'est de lire Freud avec l'inconscient pour qu'il y ait de la linguistique. Puisque Lacan dit, l'inconscient, c'est la condition de la linguistique. Ben oui, parce que les linguistes, ils ont toujours ce problème, comme les logiciens. Vous voyez. Les logiciens, toutes les logiques, elles sont faites pour masquer un manque. Elles masquent qu'il y a un manque. Et nous, dans la psychanalyse, c'est le seul discours où on essaye de faire en sorte, avec Freud et avec Lacan, que ce manque ne manque pas. C'est en ça que c'est moins angoissant. Parce que quand le manque manque, c'est ça l'angoisse. Bon, donc il y a le manque, il est là. Il est dans le fait qu'il n'y a pas moyen de faire ça, d'arrêter le film sur une image. C'est quelque chose qui se fait en acte. C'est pour ça qu'il ne faut pas se gargariser avec l'acte analytique. La tâche analysante, c'est déjà très difficile à situer, à inventer, à développer comme analysant. Et on a besoin d'un analyste pour ça, quelqu'un à qui on parle, une adresse, quelqu'un qui est en chair et en os à qui on s'adresse. Mais pas éternellement, c'est pas un directeur de conscience, hein. C'est pas un curé, c'est pas un professeur. Bon, c'est quelqu'un à qui on veut expliquer quelque chose, et il faut vouloir lui expliquer quelque chose, mais il faut aussi se frotter au texte de Freud et de Lacan,
et vouloir expliquer quelque chose. C'est dans ces tensions-là qu'on arrive à trouver la tâche analysante. Bon. Alors, Jones, il pose la même question que Freud avec Hamlet. Il dit psychologie et esthétique. Est-ce qu'on peut analyser Hamlet? Est-ce qu'on peut analyser le texte d'Hamlet? Bon, Jones, il veut, il lit tout ce qu'on a écrit sur Hamlet depuis que Shakespeare a écrit Hamlet, dans son petit livre qui s'appelle Hamlet et Oedipe. Hein. Jones, il a tout écrit, il a tout lu, et c'est une très bonne, ça vous donne une très bonne bibliographie shakespearienne. Bon, et la conclusion de Jones, c'est même Lacan le commande dans son séminaire 6, hein, c'est que finalement, il s'aperçoit que Hamlet, c'est écrit par Shakespeare juste après la mort de son père, et puis là, il traverse une crise difficile, et puis alors la formule qu'il a trouvée, c'est, ben voilà, qu'est-ce que c'est ? Hamlet, ce serait Shakespeare s'il n'avait pas écrit Hamlet. Ça veut dire que écrire Hamlet, c'est faire quelque chose qui résout le deuil du père. Bon. Tiens, là, on avance peut-être un cran. Est-ce que c'est de l'ordre de la sublimation de la psychanalyse que d'écrire Hamlet pour ne pas devenir Hamlet et écrire un personnage qui serait ce qu'on serait devenu si on n'avait pas écrit cette pièce? Voilà, ça vous ouvre des pistes, là, pour la critique ou pour la clinique. Bon. Alors, où est-ce que je veux en venir? Je veux en venir sur le fait que vous avez évidemment tout à fait l'idée qu'avec Lacan et Joyce, dans le séminaire Le Symptôme, vous avez bien l'impression que Lacan, il a mis le paquet, lui, il fait l'analyse de Joyce. Tout le monde est là, il l'a même traité de symptôme. Dans le texte qu'il a écrit avant de faire le séminaire, dans le symposium Joyce, il a fait un exposé. On a même publié les notes de quelqu'un qui avait pris des notes a publié les notes, mais ensuite il a donné un écrit Lacan qui s'appelle Joyce le symptôme. Il dit c'est son nom. Hein? Joyce le symptôme, c'est son nom. Comme on dit Jésus Lacaille. Là il évoque. Bon. Oui, c'est un nom, c'est un petit nom, le symptôme pour Joyce. C'est un surnom. Un sobriquet, oui. C'est ce qu'il y a de plus intéressant dans le nom propre, d'ailleurs, c'est la question du sobriquet. Comment, justement, ça tient? Comment ça prend? Comment ça devient un nom qui reste? Tout le monde dit, ça s'inscrit. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ça s'inscrit. Vous voyez, alors tout de suite, on a les traces mnésiques, et hop, c'est la foire d'empoigne. Vous avez tout le monde qui croit avoir compris quelque chose, on n'a rien compris du tout, on ne sait pas du tout. Comment se fait-il qu'un bon mot, comme une œuvre, que ce soit la Chapelle Sixtine ou Hamlet de Shakespeare ou les frères Karamazov, et comme un bon mot au bistrot que vous faites, et ben, si c'est bon, ça se répète, quelqu'un va l'entendre, il va le trouver bon, il va le répéter, il ne va pas pouvoir s'empêcher de le répéter. Donc voilà, le langage, ça permet cette répétition que ne connaissent pas les abeilles. C'est que le mot d'esprit, c'est connexe à la structure du langage, il n'y a pas de métalangage, ça veut dire il y a nécessairement du métalangage. Et finalement, ça s'efface. Donc ça, je vais le mettre au tableau parce qu'il y a deux points importants côté langage. Côté langage, vous avez deux points importants. C'est la structure du langage qui s'appelle « il n'y a pas de métalangage ». Mais ça veut justement dire, dans la logique que Lacan développe, cette négation de ne pas, ici, c'est pas la négation classique des logiciens, c'est une négation que moi j'ai construite dans la petite logique topologique que je propose d'étudier pour étudier les textes de Freud, de Lacan, puis pour aussi étudier, pour apprendre, pour commencer à apprendre à faire du patinage artistique. C'est pas une question d'écoute, vous voyez, bon, écoute, analytique, tout ça, non, c'est une question de logique. Cette négation, elle dit, il est faux qu'il n'y a pas de métalangage et il est faux qu'il y a du métalangage. Hein, je vous l'écris comme ça, regardez. La phrase, là, on va l'écrire comme ça. Il y a du métalangage, c'est la phrase P. On va dire que la négation, on va l'écrire comme ça avec un trait dessus. Non P, il n'y a pas de métalangage, c'est il est faux qu'il n'y a pas
de métalangage et il est faux qu'il y a du métalangage. La phrase P, elle dit il y a du métalangage. Ça s'écrit P bar égale non, non P et non P. C'est une, ici, il y a une autre négation qui est la négation modifiée, et ça, c'est une autre négation qui est la négation, la seconde négation modifiée. Et ça, c'est la négation classique que j'utilise comme un il est faux que. Bon. Ça, c'est une structure. Premier point. Jacobson le dit comme ça, hein. C'est le seul que je connaisse qui le dit comme ça. Il dit, il y a nécessairement du métalangage, et puis regardez, on fait la grammaire du français en français, la grammaire de l'anglais en anglais, il n'y a pas de métalangage. On n'est pas obligé de sortir du langage. Tous les mystiques ont voulu s'extraire du langage, on n'en sort pas. Hein, bon. Il y a même quelque chose qui du langage nous échappe, c'est l'énonciation quand on parle. Et même l'ascription quand on écrit. Parce que si on veut parler de la parole, on est obligé de parler de nouveau, donc il y a de nouveau une énonciation, c'est comme une savonnette. Bon, donc il n'y a pas de métalangage, c'est une structure qui est... Je vous proposerai de voir dans cette structure quelque chose d'aliénant. Mais alors justement, il faudrait l'articuler logiquement avec la bourse et la vie, la manière dont Lacan présente l'aliénation. Alors c'est pour ça que j'écris ça, parce qu'il y a... Vous voyez, ça commence à s'écrire comme ça, puis par une nouvelle négation. Et puis il y a un deuxième point qui est ce que je vais appeler le phonème. Le phonème. Le langage, c'est caractérisé par le phonème, par le fait qu'il y ait des traits différentiels, qu'il y ait des éléments discrets qui s'opposent, et que la grande découverte de Baudouin de Courtenay, et c'est ce que rapporte également Jacobson, c'est pour ça que Jacobson, c'est quelqu'un de beaucoup plus important pour moi que Saussure, parce que Saussure, il a plutôt dénaturé ça avec son histoire de signes. Il va nous faire tomber dans la représentation, signifiant, signifié. On croit à nouveau qu'il s'agit de connotation, dénotation, référent. Ça fait commettre plein d'erreurs. Donc je comprends que Méchenic, il gueule contre le signe saussurien. Et c'est pour ça qu'il n'a pas lu Lacan. C'est dommage, Méchenic n'a pas lu Lacan, parce qu'il croit que Lacan, c'est un saussurien qui est un linguiste du signe. Et Méchenic, il passe son temps à dire que le signe saussurien, c'est une ruine. Bon. Pourquoi ? Parce que vous voyez bien pourquoi... Réfléchissez. Si ce que veut dire Saussure, c'est justement le phonème, hein, il a voulu mieux expliquer le phonème. Ben oui, en voulant expliquer mieux, on explique moins bien. Ça arrive, ça, c'est dans l'histoire, ces choses-là. Vous avez le phonème, c'est dire, c'est le contraire du cratyle. Jamais vous ne trouverez la signification, c'est-à-dire la phonologie, hein, en analysant avec un oscillateur cathodique le signal qui passe dans le téléphone de la voix qui transmet le message. Vous pouvez analyser tout ce que vous voulez des signaux. Il y a une différence fondamentale entre signal, tout ce qu'ils font, tous les imbéciles de l'artificiel, là. Ils sont toujours dans le signal, parce que le signal, on est du côté de l'écriture, de la syntaxe, on est beaucoup plus à l'aise, on est en algèbre. Tandis que le problème, c'est qu'il y a quelque chose qui s'appelle la signification qui passe pas, qui est portée par le signal, mais qui nécessite le sujet. C'est ça le phonème. C'est ce qui va faire même que la modernité va apparaître à partir du phonème. Il y a tout de suite à la fin du 19e, quand Baudouin de Courtenay découvre le phonème, vous allez voir très vite apparaître Kandinsky, peinture concrète, Schoenberg, musique atonale. Ils vont dire, bon, puisqu'il n'y a pas de valeur intrinsèque au phonème, et à ce qui est dans le langage, les éléments du langage n'ont pas une valeur intrinsèque, eh bien, vous avez forcément, on va pouvoir donc faire une autre culture que celle qui a déjà été faite. On va faire une culture moderne. On va abandonner les traditions, on va abandonner les références à l'art grégorien ou à Bach, et tout ça. On va faire une autre musique, on va abandonner la peinture, la perspective linéaire, on va faire une peinture qui va être la peinture concrète de Kandinsky, son neveu, la projette. Et la modernité, elle n'est pas encore arrivée, parce qu'il y a un petit problème, c'est qu'on peut se débarrasser de la signification traditionnelle, et ça se fait même, chaque génération invente une nouvelle langue, donc ça se fait, on oublie, mais on en redécouvre un morceau quand même. Ça, on ne s'en débarrasse pas comme ça. Mais il ne faut pas tomber dans la connerie des gens qui sont là en train de chercher l'authenticité, ou les racines, ou le nationalisme, ou vous voyez,
des références quoi, divines ou religieuses ou naturelles, aussi naturelles, la nature, le droit naturel, vous voyez, bon, tout ça, il va falloir quand même mettre tout ça un peu en sourdine, il va falloir mettre... Mais par contre, c'est juste qu'il y a quelque chose qui reste, qui permet pas de faire l'art moderne d'un seul coup, comme Schoenberg, le désert sériel, comme la peinture concrète. Ah, la peinture concrète, mon père, il aimait pas ça parce qu'il croyait que la peinture, c'était la photographie. Alors, il voulait de la peinture figurative, représentative. Et tout le monde, avec Saussure, retombe dans la représentation. Quand Baudouin de Courtenay, comme le dit Jacobson, fait cette découverte extraordinaire que le phonème n'a aucun lien intrinsèque avec ce qu'il va signifier, que la signification, elle vient des oppositions dans le système phonologique, que le signal phonétique n'a rien à voir avec le phonème, que Lacan va d'ailleurs travailler très très lentement pour en faire le signifiant du côté des oreilles et la lettre du côté du graphème. Et il va subvertir Saussure parce que le signifiant, il est au-dessus de la barre et la lettre, elle est du côté du signifié. Lacan, il dit, la lettre, c'est ce qui rend lisible le signifié. Pourquoi c'est pas bon, Saussure? Et il a raison, Bechelin. Parce que Saussure, il nous dit, il y a quelque chose qui est différent du signal de la phonétique, du signal acoustique, hein, qui s'appelle le signe linguistique. Voilà. Lui, au lieu de l'appeler phonème, il l'appelle signe linguistique. C'est plus un signal, c'est un signe linguistique. Et linguistique veut dire... Et alors tout de suite, il dit, il y a deux choses qui sont collées ensemble et inséparables, c'est le signifiant et le signifié. Il prend la référence sur les stoïciens. C'est-à-dire que vous avez le signal, pour Saussure, le signal, c'est le signifiant de la phonétique, et vous avez le signifié, c'est la signification produite par le système phonologique. Et ils sont collés ensemble pour que ça fasse un phonème, ou plutôt un signe linguistique. Il faut mettre l'accent sur linguistique. Avec votre traceur dans le livre, vous mettez linguistique, c'est là qu'il faut surligner. Bon. Signe linguistique, il veut expliquer comme ça, Saussure. Bon, alors, Lacan ne le méconnaît pas. Regardez ce qu'il dit, Lacan. Vous trouverez ça dans la présentation de la thèse d'Anita Lemaire. Il écrit ça comme ça. Il dit, on va prendre le signifiant dans son acception naturelle. Alors, il pousse les trucs très loin, Lacan. Il y a de quoi devenir fada, hein, pour le commentaire. Parce que vous voyez, il dit, on va prendre le signifiant sous son aspect naturel. On va l'appeler S. Lacan, il dit ça dans la thèse de Madame Lemaire, dans la présentation. Il appelle S, le signifiant, dans son usage naturel. Ça, c'est ce que moi j'appelle le signal. C'est ce que Saussure appellerait le signifiant. C'est le son, c'est l'élément acoustique. Et le signifiant dans son aspect phonologique, on va l'appeler S barré. Il prend les deux lettres qu'il va utiliser pour le sujet non barré et le sujet barré par le désir. Qui est le sujet dans le schéma, là, déjà là. Et ce sujet non barré, il en parle. Vous savez, il en parle quand il présente le schéma L, et puis Lacan, il en parle aussi dans Kant avec Sade, par exemple, dans le schéma de Kant avec Sade. Donc, vous voyez, il y a du boulot hein, pour commenter Lacan, parce que, vous savez, et Lacan, il est en train de faire ce que Méchonique dit qu'il faut faire, quelque chose à Saussure pour retrouver Baudouin de Courtenay, parce que Saussure, c'est ruineux. Pourquoi c'est ruineux? Parce que, je vous donne un premier exemple. Vous lirez dans Kojève, par exemple. Kojève, il dit les choses... Il parle d'un schéma à peu près comme le mien, vous voyez, en trois étapes. Première étape, ici, processus premier, processus primaire, processus secondaire. Vous voyez. Bon. Il dit, il y a quelque chose qui s'appelle le signe pour Kojève, qui est quelqu'un de plus jeune que Saussure, hein. Mais le signe, dit Kojève, c'est un phénomène vital et non humain. Tiens, tenez, c'est éthologique le signe. Qu'est-ce qu'il dit par là? Il dit, pourquoi? Parce que le morphème, lui, il ne parle pas du signifiant, il parle du morphème. Le morphème, bon, le phonème, le morphème, vous pouvez prendre des unités plus ou moins grosses, mais c'est quelque chose qui est du côté du son ou du trait distinctif. Bon. Et chez les animaux, il dit, c'est collé. Il dit la même chose que Saussure, mais pour le signe animal. Alors, vous voyez, Milner, il a du boulot. Le signe, dit Kojève, c'est un morphème et un sens, mais le sens est collé d'une manière irréductible, on ne peut pas les séparer. Qu'est-ce qu'il est en train d'évoquer, là, Kojève? Il est en train d'évoquer les cycles instinctuels des animaux, c'est-à-dire les rites animaux. Les rites animaux qui font que, vous voyez, justement, ça se reproduit toujours de la même manière. Hein. Et il dit que le signe, ensuite, lui, il va dire que c'est quelque chose qui n'est pas le signe, mais qui va devenir le concept, c'est quand le morphème peut être séparé du sens. Donc ça serait antique saussurien. Ben là, il nous fait rentrer dans le processus primaire. Donc comme Lacan, il a lu Cogève et il a lu Saussure, vous pensez bien qu'il s'en est aperçu. Que quand on passe du signe vital et non humain qui est collé, et Saussure, lui, il en fait le signe linguistique. Alors quand on passe au signe linguistique, Cogève, il dit, c'est le concept, le morphème, ça donne une notion. Et, si le, et la philosophie consiste à commenter le sens par un discours cohérent, non contradictoire, d'où l'importance des négations, de la négation dans tout ça, voir comment ça fonctionne pour être cohérent, non contradictoire. La philosophie, elle est un commentaire du morphème qui est une notion. Et par ce commentaire, si ce discours arrive à se tenir, vous voyez, un discours qui fait un ensemble, qui fait un propos, qui commence et puis qui finit, et qui est cohérent et qui ne se contredit pas, eh bien, la notion devient concept. Mais pour que la notion, le morphème devienne concept, il faut que ça se sépare, qu'il y ait un écart entre le morphème et le sens. Donc c'est complètement anti-saussurien. Parce que justement, Saussure, pour nous dire la même chose, il nous dit qu'il faut que ça reste collé ensemble. Pourquoi ? Parce qu'il veut, lui, vous voyez bien la figure de style de Saussure. Saussure, il essaye de nous dire, ah mais oui, mais attendez, signe linguistique, ça veut dire... C'est un signe qui ne va pas justement être un signal animal, ça va être un signal qui va devenir signe linguistique grâce à sa signification. Il ne faut jamais oublier la signification, voilà ce qu'il dit Saussure. Mais malheureusement, il nous présente un modèle que Lacan reprend pour se moquer de ça, puis qu'on a beaucoup critiqué.